Bonjour et bienvenue, on s'excuse pour ce petit blanc, j'avais oublié de mettre le micro.
Let's go.
Donc bienvenue cette fois-ci vraiment sur l'émission Bruit de 13h à 14h tous les vendredis. La So Bruit, on veut savoir qu'est-ce que c'est. Antoine, décris-la nous.
Ouais, alors la So Bruit.
Deuxième fois.
Asso étudiante, basée à l'UTC, donc Université de Technologie de Compiègne. Et donc, on fait des vidéos, des interviews, puis on fait aussi de la radio, donc tous les vendredis de 13h à 14h sur Graphite, donc c'est maintenant. Voilà, on a un petit média quoi.
On a un petit média sympa, et cette semaine on va parler de Ramadan avec Inès et Ayman. Salut Inès, salut Ayman.
Coucou.
Salut. Comment allez-vous? J'adore prendre cette voix quand je dis comment allez-vous aux gens.
Ça va nickel et toi?
Tranquillement, tranquillement. Je serai accompagné donc de Paula pour l'interview et de suite après ma petite présentation, donc je le répète une deuxième fois inutile finalement. Antoine Jeunet nous fera une petite chronique intitulée Brut. Qu'est-ce qu'il est beau Antoine? Qu'est-ce qu'il est chatoyant?
Merci, t'en fais surtout pas trop. Bon, salut tout le monde, salut tous les auditeurs, toutes les auditrices, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens cette semaine avec une chronique très corporate puisque je vais vous parler de bruit dans l'émission de Brut. Donc ça commence bien. Bon, le bruit, tout le monde voit ce que c'est. Enfin, pas littéralement voir, mais enfin, vous comprenez. Le bruit, c'est du vacarme, du son, du... En fait, non. En acoustique, on va faire la distinction entre son et bruit. Si je vous dis un bruit, vous pensez à quoi?
Ah, le bruit d'un animal ou un truc comme ça, tu vois.
Ouais. Moi qui vais mettre une super sur Instagram de toi.
Tu fais de la flûte.
Tu fais de la flûte.
En effet, un bruit, c'est plutôt... quelque chose de désagréable. En fait, c'est un son qui va être désagréable, là où le son, c'est davantage neutre. Donc l'oiseau qui chante une gentille mélodie avec Blanche-Neige, c'est un son. Et le même oiseau qui vient chanter la même très gentille mélodie à ta fenêtre aux toutes premières lueurs de l'aube, eh bien ça c'est un bruit. Bon, très bien, et ensuite? Eh bien, il s'avère que Bruit, l'asso qui vous délivre cette émission, c'est un média étudiant. Étudiant. Et étudiant, pour beaucoup, ça rime avec bruyant. Et alors, bruyant, mais pas assonnant. Ça veut dire que les gens considèrent qu'on génère du désagréable, que nous sommes une nuisance, en fait.
Bon. C'est un peu dur, quand même. Enfin, je suis...
Ouais, non, mais... D'un côté, j'entends l'argument. En réalité, quand je suis arrivé tout jeune et studieux à ma première année dans l'enseignement supérieur, mes voisins du dessus et leurs soirées, moi aussi, je les considérais bruyants. Ne pas pouvoir fermer l'œil, essayer les boules qui tombent invariablement des oreilles... Se dire qu'on a soi-même décidé de ne pas faire la fête pour être en forme le lendemain, qu'on a décidé d'être raisonnable et que ces gens qui eux-mêmes ont décidé de ne pas être raisonnables nous gâchent nos efforts. Bref, tout ça, c'est chiant. Pour autant, je crois que les étudiants, s'ils peuvent être très bruyants, sont aussi source de sons bien plus agréables. Bon, on a des exemples évidents. Hein. On a les concerts. Oui, Oran, t'es très, très agréable. On a les concerts étudiants, on a les chorales. Bon, oui, on a la radio aussi. On a les orchestres, les groupes de jazz, de rap, de rock, tout ça c'est de l'agréable. Mais plus subtilement, j'ai aussi cette impression que les étudiants dégagent naturellement quelque chose d'agréable. Pour moi, c'est exquis que d'entendre des gens bavarder un peu trop fort quand je marche dans la rue, de les entendre s'exclamer et s'esclaffer avec force, spontanéité. Et ces gens qu'on voudrait souvent qualifier de bruyants, moi je les trouve juste joyeux et leur joie est communicative. Et ces gens, souvent, ce sont des étudiants. Alors c'est vrai, on aime faire la fête, même à des heures pas très honnêtes. Mais on rit et on crie, alors aimez-nous et riez aussi, sapristi. Vous n'allez pas me faire croire qu'un monde parfait serait un monde silencieux. Le silence, c'est angoissant. Et même pour dormir, je crois qu'il n'en faut pas trop. Quelques sons familiers au moment de s'endormir, moi j'aime bien. Le vent qui souffle dehors, la pluie qui tombe sur le toit pendant qu'on se pelotonne sous la couette, c'est délicieux. Et idem au réveil, la douche qui coule à l'autre bout de l'appart, c'est merveilleux. Ça signifie que le monde vit encore autour de nous. Ça rassure, ça conforte et ça réchauffe pour la journée. Bon, je vais vous raconter une mini-histoire pour conclure. Quand je suis arrivé à Compiègne, je logeais dans un appartement super mal isolé. Le plancher était fin comme du papier cigarette et la fenêtre simple vitrage de ma chambre était fendue. Inévitablement, on entendait vraiment tout. Une nuit, je me suis fait réveiller par un bruit venant de la rue. C'était un bruit horrible, effrayant, un sifflement et un grondement à la fois. Dans ma somnolence, j'ai imaginé un monstre terrible. Le monstre est resté un moment durant lequel je suis resté immobile, à respirer le plus doucement possible. Puis il est parti, s'éloignant dans la rue, troublant le sommeil d'autres nouveaux étudiants. Bon, plus tard, en parlant avec mes collègues, j'ai compris qu'il devait s'agir du camion poubelle qui passait très tôt le matin.
Ouais, il est insupportable.
Si vous habitez Compiègne, voilà, que vous avez le sommeil un peu léger,
le bruit du camion poubelle,
vraiment, je te jure. En plus, il passe pas tout le temps à la même heure, des fois à 3h, des fois 4h, des fois 5h.
Ok,
je l'ai déjà étudié.
Et donc plus tard, j'ai compris que c'était ce camion poubelle. Je me suis réveillé encore plusieurs fois de la même manière. Mais à chaque fois, c'était un peu moins effrayant, apparemment, pour toi peut-être pas. Et un petit peu moins désagréable. Une transition s'est faite et un jour, hop, le monstre était devenu réconfortant au possible. Son son me berçait et je me rendormais avec un grand sourire qui ne me quittait plus jusqu'au matin.
Ah ouais, je suis sceptique, mais ok.
C'est du vécu, c'est du vrai. Okay. Depuis, j'ai déménagé dans un appart un peu mieux isolé, mais de temps à autre, j'entends encore dans la nuit la douce berceuse du camion poubelle. Et apparemment, c'est une histoire que je partage avec...
Avec l'entièreté de la population combien de mecs.
Non, apparemment, c'est scindé. Il y en a qui aiment le camion poubelle.
Ouais, moi j'avais le truc de, tu sais, tu te lèves et tu fais « Ah putain, il me reste 5 heures à dormir. »
C'est un peu ça,
incroyable. Donc du coup, tu te rends.
Moi, c'était au confinement 1, en fait, j'avais un rythme complètement déréglé, donc j'étais déjà debout, mais juste, enfin, t'es chez toi et tout le monde dort, tous mes collègues dormaient. Et juste, j'entends un bruit de fou furieux et je comprends pas ce que c'est. Et vraiment, mais t'as l'impression que c'est un Transformers qui arrive dans ta rue. Genre, franchement, il passait sous ma fenêtre. Bon, j'aurais pas dit qu'il est réconfortant, mais vas-y, je pense les goûts et les couleurs, je vais pas discuter avec toi là-dessus.
Non, moi, perso, c'est stressant. J'habite en maison et du coup, chaque fois que j'entends, je l'entends passer, je stresse.
Ouais, mais parce que toi, c'est vraiment. C'est à ton niveau en plus. Moi, c'est sûr. Quand je l'entendais, j'étais vraiment en hauteur. Donc ça, t'étais là en mode tu sors, tu regardes, c'est quelqu'un qui
est là. Non, mais je stresse parce que j'ai oublié en fait de sortir mes poubelles. Je me suis dit, ah merde.
Ah, mais t'as pu chez moi. T'es là, tu comme ça.
Ça va plus chez moi pendant une semaine, merde.
Tu sais, tu la vois, Inès, j'entends son son, ah merde.
Elle est fou, elle les jette pas. Tiens,
s'il vous plaît. Bon, ben, on applaudit Antoine pour votre chronique, bravo.
Merci Antoine,
qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, Antoine. Antoine. Il se passe quelque chose, je crois.
Pardon.
Il se passe quelque chose, je crois.
Il se passe un interlude musical.
Bon, ben, comme l'a dit Antoine, magnifique transition, petite interlude musicale, et on revient avec Ayman et Inès pour la fameuse interview Ramad. Et on est de retour après cette magnifique musique, donc c'est Arptem de Icaz Boy. Donc Inès, est-ce que c'est toi qui as choisi la musique? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors oui, je vais essayer de faire ça un peu rapidement. En gros, ça a commencé environ il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement. Je postais mes vidéos de cover de harpe sur Twitter et je ne sais pas pourquoi, ça a percé. J'ai continué et un jour...
Excuse-nous, Mister V, en fait.
Tu veux pas me voir désabonner un peu là?
Et un jour, quelqu'un de mes abonnés voit une story d'Icaz Boy. Moi, je connaissais pas Icaz Boy. Voit une story d'Icaz Boy qui recherche un ou une harpiste. Et la personne nous met en contact. Icaz Boy dit que à la base, il veut pas quelqu'un qui fait des covers, mais il veut quelqu'un qui compose. Et donc, moi, je lui dis ouais, ça fait quelques années que je compose et tout. Et ça s'est fait. On se parlait quelques fois. Il m'a dit j'ai ça comme projet. Ça s'est pas fait exactement comme ça, mais genre un an plus tard, il m'envoie un message est-ce que tu pourrais venir en studio à Paris avec ta harpe? Donc j'ai fait ça peut se faire. Donc moi je demande à mon père et tout. Est-ce que ça peut se faire parce que je peux pas transporter la harpe toute seule. Donc on la transporte. On va en studio. Il me fait écouter des accords, on va dire, au clavier, et je compose à partir de ces accords-là. Et voilà, ça s'est retrouvé sur la chanson Harp Theme de l'album Brutal 2 de Dickes Boy.
On va l'écouter. Oui.
Mais ouais.
Est-ce que vous avez déjà raconté quand j'ai posé ma voix sur l'album de Madonna?
C'est le même calibre.
Vraiment, c'est fou, mais ouais.
Bah c'est comme ça, c'est du hasard, j'ai eu de la chance.
Et la chance des réseaux sociaux, ça.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça qui est incroyable. Et du coup, bah, j'essaie de continuer de mon côté, de préparer des trucs. Je suis en contact encore avec lui pour des projets futurs. Et j'espère que ça.
Ok, donc il y aura des petits trucs. On annoncera sur les stories de vous.
On passe ton contact à la team IF22, là, au cas où. Si jamais ils veulent te booker.
Tu fais un feat avec Vladimir Cauchemar sur.
Vraiment, feat harpe.
Ouais,
ça peut faire fou.
Je suis chaude.
Sur fond de grosses techno, ce sera incroyable.
Je suis chaude. Et si vous voulez aller me voir sur les réseaux, c'est Ayam Ayla. A-Y-I-L-A. Okay, sur Twitter. Je suis pas très actif en ce moment, mais ça va revenir.
On le rappellera en fin d'émission quand même. Yes. Pour cette super aussi. Incroyable, Paula nous a rejoint. Bonjour Paula. Paula est enfin là, première émission. Pas stressé?
Non, ça va.
Ça va, c'est cool. passons au sujet qui déchaîne les foules. Les millions de Français qui nous écoutent.
Bonjour à eux.
Bonjour. Ah bon. Donc, on rappelle, là on est en pleine période de Ramadan. Donc vous deux, vous êtes de confession musulmane.
C'est ça.
Donc tous les deux, vous êtes en Ramadan actuellement. Donc là, vous jeûnez, par exemple, vous n'avez pas mangé ce midi, j'imagine.
Affirmatif.
donc, pour vous deux, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le Ramadan? Au-delà de qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce qu'on le connaît très très peu, nous, finalement, tu vois.
Alors, Ramadan, d'abord, c'est en gros, c'est un mois de l'année. Donc, c'est un calendrier alternatif, c'est le calendrier de l'Hégire, qui est le calendrier sur lequel se basent les musulmans pour poser leurs événements, etc. Donc, c'est un calendrier lunaire. Et de la même manière que dans le calendrier qu'on connaît, il y a janvier, février, mars, bah, dans l'autre calendrier, il y a un mois qui s'appelle Ramadan.
Ok.
Et donc, c'est un mois qui s'appelle comme ça et qui est béni. Dans lequel on fait plein de trucs où on se donne un peu plus dans notre foi, et parmi les choses qu'on fait, bah, c'est qu'on jeûne le mois entier.
Parce que, en fait, nous, les gens pas musulmans, Paula, je pense, sera aussi, on connaît que finalement le jeûne, on connaît vraiment que ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, par exemple, comme chose à faire? Je sais pas comment le présenter exactement, parce que je connais pas trop.
T'inquiète pas. C'est, du coup, des choses à faire, ça serait vraiment de répandre, enfin, moi je le vois comme ça, répandre le bien autour de soi. Toutes les bonnes actions que tu fais, elles sont démultipliées au niveau à l'image de Dieu, l'image que Dieu a de nous. Toutes les bonnes actions qu'on fait, elles sont encore plus valorisées pendant le mois du Ramadan. Donc on doit respecter les autres, ne pas s'insulter, ne pas être violent. Vraiment.
Après, c'est comme tout, j'imagine, tu as quand même une interprétation de.
Oui, chacun son interprétation, okay. Mais c'est quelque chose de très répandu, ça.
Je pense que la plupart des gens seront d'accord pour dire quand même que c'est un mois où tu te donnes à fond. En gros, tu fais ce que tu es censé faire le reste de l'année. Mais là, vu que tu es plus récompensé, et puis il y a un mood qui fait que
Il y a un effet de groupe aussi qui fait que tu as envie de faire le truc.
Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font que c'est là maintenant. Si jamais tu as. Enfin, de la même manière que quand tu as le 1er janvier, tu as plein de gens qui s'inscrivent à la salle, c'est le moment. Tu arrives et tu dis OK. C'est un peu ça. Enfin, c'est pas vraiment idée. Mais c'est le moment où tu dis OK, ça fait longtemps que j'ai telle mauvaise habitude, je vais la lâcher. Ça peut être plein de choses qui te font du mal à toi, qui font du mal aux uns autour de toi ou peu importe. Et tu dis OK, je vais arrêter. Et puis tu as un mois où tu te retiens. Et puis après, souvent, selon les personnes, tu te rends compte qu'en fait c'était simple. Et après, tu t'en ressors sûrement mieux.
Okay.
Est-ce que vous sentez que ça dure parfois, les bonnes habitudes? Genre, vous les gardez toute l'année?
Parce que la salle du premier de l'an, par exemple, tu vois.
Ouais, ça ne tient pas pour tout le monde, ça, par exemple.
Ça dure dans le sens où. Après, ça dépend, en fait. Je sais que quand on prie. Enfin, la prière, c'est quelque chose qui dure, tu vois. Donc, moi, quand je prie, je prie pas tout le temps, je prie très rarement, quelque chose que je fais pas très bien. Mais quand je prie parfois dans le reste de l'année, j'ai un peu cette sensation que j'ai pendant le Ramadan qui revient un peu. Donc, cette sensation de soulagement et de paix un peu, et du coup, ça revient un peu. Mais c'est vrai que c'est démultiplié, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire plus pendant le Ramadan.
Est-ce que, du coup, le délire du. Parce que de l'extérieur, ça donne vraiment l'impression de En fait, c'est un mois où tu dois réapprendre à te contrôler toi-même, réapprendre à apprivoiser un peu ce que t'es, voilà, ton truc. Est-ce que ça vous donne pas aussi une impression de paix, en fait? Est-ce que du coup, au début, c'est dur, et après, comme ça, quand tu finis le mois, tu te sens un peu ressourcé, etc. Comment vous vivez?
Ouais, il y a clairement de ça. C'est sûr que c'est bien, surtout si jamais ça fait partie des choses auxquelles t'aspires. Enfin, je vais parler à titre très personnel, genre... Moi, je sais qu'il y a plein de choses que je fais peut-être pendant l'année et qui ne me plaisent pas forcément. Et puis voilà, ça fait partie des choses que j'ai l'habitude de faire, donc je les fais, etc. Et puis là, je saisis un peu l'occasion pour justement lâcher cette habitude. Bah, forcément, après, je suis content. Okay. Je suis content parce que selon mes critères à moi, je suis mieux quand je ressors que quand je suis rentré.
Ouais, le ramadan, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, tout le monde a une vision personnelle, quoi.
Oui, c'est ça. Ça change vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui le prennent vraiment beaucoup à cœur. Mm. Il y en a qui le prennent un peu moins à cœur et qui... en fait, pour moi, c'est un peu un mois comme les autres. La seule chose, c'est le jeûne et essayer de ressentir un peu plus ma foi. Mais en soi, c'est un peu comme... Enfin, ça dépend, ouais. Peut-être que toi,
c'est
tu le ressens
pas aussi fou que Ayman, en fait. C'est ça qui...
Ça dépend. en vrai, quand j'étais plus jeune, oui, c'était un peu... Je trouve que le ramadan, la vision que j'ai du ramadan a changé aussi au fil des années.
Okay.
Donc quand j'étais plus jeune, c'était plus festif, plus « ah oui, je vais jeûner, faire comme les grands, ça va être marrant, on va tous se réunir le soir pour manger ensemble ». Alors que maintenant, c'est plus quelque chose où, je sais pas, parce que peut-être j'ai plus de choses à faire, donc je suis plus calme, je me recentre un peu plus sur les choses. Et il y a des événements aussi personnels qui ont fait que maintenant je le vois un peu plus différemment, j'essaie de plus me rapprocher... pas de Dieu, mais de ma foi, parce que j'aimerais bien me rapprocher des personnes que j'ai perdues, des trucs comme ça, tu vois.
D'accord. Mmh. Justement, moi, c'est aussi ce à quoi je voulais m'intéresser, c'est le truc d'où ça vous est... j'imagine que ça vous est venu beaucoup de votre famille, vous. Donc ça part de là, comme c'est une tradition familiale chez vous. C'est
ouais, plus que familiale. Enfin, moi, je suis né au Maroc, donc clairement, là-bas, c'est la grande majorité des gens qui suivent... qui pratiquent le jeûne pendant tout le mois.
Okay. Ah, donc, c'est clairement, donc...
Ouais, c'est ça. Donc clairement, t'as un mois avant, tu commences à voir les pubs.
voilà. Je savais pas.
T'as vraiment des trucs.
Mais oui, t'as des pubs. Et puis même vu que bah voilà, c'est une religion d'État, bah t'as des horaires de travail qui sont aménagés, les horaires de l'école sont aménagés. Vraiment, c'est tout le pays qui se bouge et qui change tout pour s'adapter. Ouais. On annule l'heure d'été, même on fait plein de choses.
Ok, c'est
très différent. Tu le vois clairement venir. Alors que bah, là, depuis que je suis en France, vu que bah, clairement c'est différent, etc., tu le vois moins venir.
Ouais,
tu...
la vie suit son cours.
C'est le bail justement que je voulais vous demander à tous les deux, parce que je crois que Inès aussi, tu viens de Tunisie.
Je suis née en France, mais mes deux parents sont tunisiens. Ouais.
Ok, donc toi, tu as vécu toute ton enfance en France ou en Tunisie?
En France.
Ok, bah, justement, c'est intéressant, tu vois la marquise entre les deux. Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu te sens vraiment étrangère à ce moment-là et vraiment sortie du groupe de les autres, des autres de l'autre côté, toi, Ayman, est-ce que quand t'es arrivé en France, justement, ça t'a fait bizarre de pas être dans l'environnement, et comment vous faites tous les deux justement pour continuer malgré le fait que votre environnement n'est pas fait pour ça?
Alors, du coup, les premières fois où j'ai fait le ramadan, je sais pas si je peux dire comme ça, mais j'ai eu de la chance, c'était pendant l'été, donc pendant les vacances d'été, donc c'était quand j'étais en Tunisie. Okay. Donc j'avais vraiment cette ambiance et je ressentais l'ambiance.
Le fameux voyage au bled.
Voilà, c'est celui que je fais tous les étés.
J'ai dit le fameux voyage au bled.
Donc je ressentais la même chose qu'Ayman, genre cette ambiance qui est vraiment, genre on est tous dans le ramadan, tu vois. Tu sens que la vie normale s'est arrêtée.
C'est un truc familial.
Quelque chose de spécial, ouais. Du coup, j'ai pris un peu cette habitude-là. En France, on a une communauté tunisienne, donc on s'invitait les uns les autres.
Le reste de l'année aussi ou...
Le reste de l'année, okay. Ouais. Mais là, c'est un peu différent depuis 2 ans, depuis le Covid, parce que c'est et surtout que j'ai un peu ma famille qui est un peu éparpillée maintenant qu'on est grand, donc c'est vraiment très personnel maintenant le ramadan. J'ai plus trop cette je le passe avec mon père, mais j'ai plus trop cette impression de regroupement, de société, que j'avais quand j'étais petite. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant dans le sens où... c'est pas plus difficile, c'est plus perturbant parce que t'as l'impression d'être un peu à côté de... Vraiment à côté... Enfin, t'as les gens qui vivent leur vie et toi, t'es un peu à part. C'est bizarre. J'arriverai pas trop à l'expliquer, mais...
Et Ayman, t'as vécu comment un peu la transition? Parce que du coup, t'es arrivé en France à partir du moment où t'étais à l'UTC, du coup.
Ouais, c'est ça. Vite fait avant, mais ouais, La première année que je l'ai fait en France, c'était 2016. Donc là, ça fait 2016, 17, 18, 19, 20, et cette fois, ça fait 6 ans okay. avec cette année.
Et la transition, par exemple, le premier ramadan, comment ça s'est passé un peu ?
Particulier, c'est sûr, t'as quand même l'habitude d'être avec tes parents et tout. Et puis moi, quand je suis arrivé en France, et puis même jusqu'à aujourd'hui, en tout cas à l'UTC, j'ai pas forcément beaucoup de potes musulmans. Peut-être même aujourd'hui, tu vois, si tu m'avais demandé de trouver quelqu'un pour m'accompagner, je peux te citer une personne.
Ouais, c'est, on en avait parlé, ouais. Tu m'avais dit.
Donc, ouais. À part lui, vraiment, j'ai pas, je vois pas, je suis pas trop.
Ok.
Donc, bref. Et donc, c'est particulier d'être, de faire ça tout seul et tout, surtout la première année. Après, c'est pas forcément l'objectif premier, donc après, ça dépend de comment tu vois la chose, mais bon, tu vois, à un moment, tu t'y fais un peu. Après, c'est sûr que le rapport par rapport au moi, il change aussi au fur et à mesure que je vieillis, parce que, clairement, quand t'as 12 piges, tu n'as pas le même rapport à la spiritualité que quand on a 23, 24. C'est plus la même chose, tu vois les choses différemment. Au début, c'est sûr que tu fais un peu comme les grands. Ouais. Comme a dit Inès, tu fais
ouais, t'as ce délire t'as ce truc de j'aspire à être comme mes parents, comme mes grands frères.
Ouais, comme tous les enfants.
C'est ça, en soi, jeûner, des fois, tu peux commencer très très tôt. Tu fais des fois, nous, ce qu'on fait, tu vois, quand t'es petit, tu casses la tête à ta mère pour jeûner, elle sait que c'est pas trop.
Ah ouais, c'est vraiment une envie quand t'es petit.
Ah oui, ouais. Vous avez commencé à quel âge vous jeûnez ?
Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Mais la première fois que je pense que j'ai fait le mois en entier, c'était en 5e, je crois. J'avais fait le mois en entier. Avant ça, tu vois, des fois tu fais un jour sur deux, c'est un ça, jour ouais. sur trois. Quand t'es petit peu, des fois tu fais une demi-journée parce que t'as ouais. cassé la tête à ta mère. Elle te dit, bon, ok, tu sautes le petit-déj, mais à 13h tu manges.
nos parents, ouais, ils me disaient, moi je me souviens, mes parents me disaient que je pouvais, le cassage de jeûne pour les enfants, c'était à 13h. Tu vois.
Ouais.
Okay. Donc moi j'y croyais, tu vois. Donc c'était ouais, vas-y, je vais jeûner comme tout le monde.
Ouais, c'est ça,
et plus en fait je grandis, plus ça sera, tu vois, vers.
C'est la règle familiale. Ça, c'est dans toutes les familles, ils inventent ça,
les parents. Après, c'est aussi parce que dans la religion, t'es pas obligé de jeûner tant que t'es pas pubère. Enfin, c'est normal, ouais, c'est tu vas ça. Pas imposer à des enfants de pas grailler toute la journée. Ouais.
Mais c'est ce que.
Ils en sont pas capables.
On en discutait avec Inès hier aussi un peu. Il y a une réelle différence entre filles et garçons sur au moins ça, tu vois.
Ce point-là.
Ce point-là, c'est-à-dire que tu pourras nous en parler, Ayman. Comment toi, tes parents ou toi, t'es arrivé à la conclusion que tu pouvais jeûner ? Puisque finalement, chez les meufs, il y a une limite précise. C'est la première fois quand elles ont leurs règles. Tu m'avais dit, c'est ça, Inès ? Et donc du coup, comment toi ça s'est fait finalement ce passage ?
Je sais pas trop, je pense que j'ai commencé avant en fait, que avant d'être pubère, j'avais déjà fait un mois entier. En fait, moi, à partir du moment où j'étais capable physiquement, je l'ai fait. Je me suis pas plus posé de questions que ça. Pour moi, c'était naturel, j'avais envie de le faire. À partir d'un moment, je faisais un jour sur trois, un jour sur deux, deux jours sur trois. À un moment, j'ai fait... à partir du moment où je me suis senti capable, j'ai tout fait. Et en fait, c'était avant d'être pubère, donc je me suis... pas plus poser la question que ça.
Ouais.
Et pour revenir un peu sur cette différence garçon-fille, tu vois, est-ce que il y a des différences déjà dans la religion entre les garçons et les filles ? Est-ce que vous avez vu dans vos familles ou dans votre entourage des différences de vision du moi, tu vois, entre garçons et filles ?
Une différence que je vois, c'est, déjà je te l'avais dit, ouais. Les filles ne doivent pas jeûner quand elles ont leurs règles, donc okay. on doit rattraper les jours en dehors du mois du ramadan. Mais du coup, par rapport à ça, une différence que je voyais, surtout quand j'étais plus jeune, c'était un peu un tabou, tu vois, autour des règles. Il fallait, je me sentais pas de montrer que je ne jeûnais pas ces jours-là devant mes cousins ou des trucs comme ça.
Okay.
Et mes tantes ou des trucs comme ça ne voulaient pas expliquer aux garçons. Et moi j'étais, mais pourquoi en fait je peux manger devant tout le monde, c'est quoi le souci,
ouais.
Genre, j'ai mon petit cousin de 8 ans, il mange devant tout le monde, moi je peux pas, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est de moins en moins, mais il y a quelque chose qui me perturbait quand j'étais plus jeune.
Mais tu penses que c'est lié au tabou, c'est lié autour... C'est la honte finalement de casser le ramadan, ou c'est lié justement autour du tabou qu'il y a autour des règles ?
C'est culturel, je pense.
Ouais, je pense que c'est culturel. En vrai, je pense pas qu'il n'y a pas de tabou autour des règles, autour de casser le jeûne. Enfin, Dieu ne t'autorise pas à jeûner quand tu as tes règles. Ouais, donc c'est vraiment quelque
interdit,
chose. C'est interdit, tu vois. Donc,
Il y a un fait spirituel, il y a une explication un peu religieuse à ça, ou pas ?
Je sais qu'on ne doit pas prier quand on a nos règles. Okay. Donc c'est lié déjà c'est lié au fait qu'on perd du sang, donc c'est logique qu'on ne jeûne pas. C'est comme quand tu fais une prise de sang, on te demande de manger après tes défenses. Mais c'est aussi parce que il y a une sorte d'impureté dans les règles, parce qu'en fait c'est quelque chose qui sort de ton corps, qui a nettoyé ton corps, et
d'accord.
du coup c'est, je pense que c'est un peu ça aussi.
C'est intéressant parce que tu vois, quand tu parles d'impureté, quand des gens du coup blancs ou des Français pas musulmans ou bah, même des gens comme moi pas musulmans, ouais, tu vois, on nous dit bah les filles quand elles ont leurs règles elles sont impures dans la religion musulmane. Tu sais, je sais pas ce que t'en penses, ouais, Paula, mais on voit directement ça, ouais, c'est horrible, c'est misogyne et tout. Et que là tu nous expliques non, c'est juste parce que comme on est en train de se nettoyer le corps,
c'est
intéressant. Je sais pas, ouais, ce que t'en penses, Paula, toi.
Il y a quand même, enfin je pense dans toute société, tu vois, c'est pas non plus dans la enfin dans votre culture ou quoi, même dans la culture française, il y a quand même un gros tabou autour des règles qui, avec les réseaux sociaux, tout ça, machin, il y a plein de mouvements, donc ça change un peu, mais je veux dire, même moi au collège, tu vois, enfin toutes les filles, je pense, on l'a vécu, genre t'as tes règles, tu demandes une serviette discrètement à ta copine, genre faut pas que les garçons y voient, ouais, et tout. Enfin, il y a toujours un truc un peu comme ça, je pense que c'est lié aussi, tu vois, genre,
oui,
je
sais, oui, pas c'est historique, c'est culturel, c'est, oui, oui. Ouais, mais c'est après moi je le vois plus trop comme ça, tu vois, je me dis bah c'est comme ça et en vrai bah tant mieux, tu vois, genre quand j'ai mes règles, enfin perso le premier jour j'ai pas la force de jeûner, donc je me dis,
oui,
bah, tant mieux, tu vois.
C'est mort.
Genre s'il y avait pas cette règle là, tu vois, je jeûnerais pas quand même, mais je rattraperais mes jours, tu vois. C'est comme quand t'es malade, en fait, quand tu es malade ou quand tu es une femme enceinte très avancée, genre tu ne dois pas faire, enfin tu peux ne pas faire le ramadan,
ouais, du moment que ça atteint ta santé, quoi. c'est ça.
Okay.
c'est clairement pas le but de se forcer et tout,
c'est, ouais, jamais. Ouais, le but, c'est jamais de te faire
ça,
du mal.
T'es diabétique, fait, ou peu importe, ouais, t'as une condition qui fait que tu peux pas, bah tu le fais pas, juste. Enfin, je pense même que c'est interdit de le faire si ça
atteint ta santé.
Enfin, c'est clairement pas le but et il faut pas que les gens ils se forcent. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le présente.
Ouais, c'est ça. Parce que la vie est plus importante en fait que le jeûne. Tu vois. Donc si tu atteins à ta vie, si tu nuis à ta vie, c'est vraiment.
Bah, t'as vraiment, c'est ce que je répète un peu, mais t'as vraiment de l'extérieur, ça donne vraiment l'impression de. Faut faire le bien, et dès que ça fait du mal dans un autre truc de ta vie, c'est pas autorisé,
c'est ça,
quoi.
Ouais. Mais du coup, parce que après, comme vous l'avez dit, le mois du ramadan, c'est pas seulement un jeûne, enfin, je veux dire, c'est plein d'autres choses, même la prière, tout ça, machin.
Ouais.
Donc, même si t'as tes règles, bon, t'as dit que vous pouvez pas prier, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire quand même, genre de mieux, tout ça, par rapport,
oui,
à,
oui, évidemment, vie. Oui, toutes les bonnes actions, c'est la même chose, tu
donc
vois.
Donc, en soi, tu peux le vivre quand même à 100%.
Ah oui, 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 clairement. Bah, je sais que, ouais, par exemple, quand je jeûne pas, parce que je peux pas, tu vois, genre. Finalement, je me rends compte que j'ai bu qu'un verre d'eau et mangé un gâteau, quoi, dans la journée, tu vois. Donc finalement, je le vis un peu comme les autres.
Ouais.
Donc, ouais, t'as une certaine habitude qui se met en place, genre ton cerveau.
C'est ça, en fait. Finalement, le repas, c'est vraiment un moment que tu partages avec les autres. Donc si tu peux pas le partager avec les autres, ça a plus de signification. Ouais. Même le déjeuner, quand tu jeûnes pas, bah, c'est bizarre, tu vois. Donc tu grignotes par-ci par-là quand t'as faim, mais c'est tout, quoi.
Et t'as aussi le délire de même physiquement. T'as des athlètes qui parlent que physiquement, quand ils font le ramadan. J'ai vu des trucs notamment NBA récemment où ils disaient quand ils font le ramadan, ils se sentent plus en forme physiquement et plus aptes à faire plein de choses sur le terrain. Je sais pas si, comment vous vivez plutôt le rapport vraiment physique au corps, comment,
ouais, niveau énergie,
comment ça se passe,
tout ça, est-ce que vous vous sentez plus fatigué, plus même la journée, quoi, parce que bon, c'est quand même un jeûne.
Bah oui, clairement. Enfin, c'est sûr que t'es pas comme d'habitude, tu te lèves peu importe l'heure, t'as forcément faim parce que t'as l'habitude d'avant, t'as l'habitude de manger et tout, donc je pense que moi, en tout cas, personnellement, je suis moins fort physiquement que d'habitude. Je ne vais pas mytho, non.
Ouais.
Je suis moins fort que d'habitude. Et puis après, non.
Ouais,
donc,
mais
j'ai pas ce ressenti.
Vraiment, t'as pas du tout ressenti.
Mais je pense par rapport à ça, tu vois. Bah déjà, le jeûne est bon pour la santé, sauf quand tu ne bois pas. Donc le ramadan n'est pas très bon pour la santé, parce qu'on ne boit pas. Mais le jeûne, c'est bon pour la santé. Et le fait aussi, le ramadan, j'ai cette sensation d'être plus concentré. Donc c'est peut-être par rapport,
ouais,
à ça, en,
okay,
fait.
Ok, ça, c'est d'accord. Ouais.
Donc t'es plus concentré parce que, comme t'as pas de force, t'es obligé de te focaliser sur une seule chose et tu peux pas te focaliser sur plein de trucs. Donc je pense que c'est pour ça que certaines personnes disent ça.
Ah, donc là, pendant les médians, ça vous met bien, quoi.
Ça dépend le moment de la journée.
Ouais, je suis d'accord. Mais après, en vrai, ouais, je suis assez d'accord. Genre, vraiment, il y a eu des années où, des fois, ouais, je me mettais sur un projet et puis, en plus, t'as pas le besoin d'aller grailler ou quoi. Vraiment, ouais, tu te mets sur ton truc et tu fais que bosser et ton cerveau, il est là et charbonne de fou et c'est stylé.
C'est un peu une distraction, la bouffe, en même temps.
Un peu, ouais. Mais clairement, surtout en temps de confinement, là, ça fait du bien, tu vois. Genre,
Est-ce que vous perdez ou prenez du poids pendant le ramadan?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'en prenais, mais depuis, on va dire, 5 ans, j'en perds.
Ah ouais,
ouais. Parce que genre, mais je crois que je vous en avais parlé hier.
Ouais, ouais, tu m'as parlé.
C'est genre, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand je faisais le ramadan chez ma famille en Tunisie ou même chez des amis en France, j'avais cette impression, enfin, on mangeait vraiment beaucoup le soir. Et j'aime pas ça, tu vois. Je comprends pas pourquoi on doit se restreindre la journée pour manger comme des gloutons le soir, tu vois. Donc depuis quelques années, enfin depuis qu'on fait le ramadan vraiment qu'avec ma famille en France, on n'est pas du tout comme ça. Donc on mange quoi? Une soupe, une datte, un petit plat, tu vois, et c'est tout. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je perds du poids.
Ouais, du coup. Et toi, Yemen, du coup?
Bah, en fait, moi, je me pèse jamais. Donc j'ai aucune idée de si je prends ou je perds. Mais je suis presque sûr de perdre du muscle parce que bah, du coup, je fais plus ma muscu et tout pendant le mois. J'arrête mon sport à part un peu de foot de temps en temps quand les gars se chauffent. Mais du coup, donc, je pense que je perds du muscle et je pense pas que je gagne vraiment beaucoup de poids parce que pareil, je mange vraiment pas beaucoup. Enfin, pour le coup, quand j'arrive le soir, j'ai pas tellement faim. Je mange un peu et après, vraiment, je suis très très vite calé.
Ouais, c'est ça, pareil. Ouais. Parce que ton estomac, il s'habitue en fait. Donc t'es en mode, ouais, je vais manger plein de trucs, mais en fait, au bout de la soupe.
Ouais, clairement, je dois me forcer pour pas manger trop peu et me sentir mal le lendemain, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est pas évident. Parce qu'en plus, la fenêtre, elle est pas non plus super large.
Ouais.
Donc le temps que tu grailles un peu, que t'es un peu refin et tout, c'est
mais
déjà fini.
Tu te réveilles le matin, toi, pour.
Ouais.
Ouais, j'ai pas la force, moi.
Bah, en vrai,
c'est quelle heure avant ce matin, ça
en ce moment, c'est 4h50, 4h55, un truc comme ça.
Okay. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est...
Mais, en général, ça tourne autour de ça, tu vois, 3h, 4h. C'est le matin très tôt, tu vois. C'est...
Okay. Enfin, ça dépend quoi, des années, forcément. C'est avant, juste avant l'apparition, je pense, du premier rayon de soleil.
Ouais.
Je sais pas à quoi ça correspond.
À l'aube, il me semble que c'est l'aube, ouais.
Je pense à un truc comme ça, ce qui fait que, bah, clairement, c'était le 21 décembre. Je pense que ça doit être à 7h, 8h du mat.
Ouais, voilà.
Mais là, vu qu'on est en avril, c'est 4h55.
Ok.
Mais du coup, non, je me lève et puis après, souvent je reste debout. Enfin, aujourd'hui, ouais, c'est ça, je suis debout depuis 4 heures. Après, je vais au taf. Ça dépend, des fois je chill dans mon lit et tout. Je vais au taf vers 6 heures, un truc comme ça. Je fais ma journée. En fait, vu que je suis en télétravail, je fais un peu ce que je veux.
Oui, t'es en stage en ce moment, toi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
C'est ça, vu que je fais de l'info, bah, je m'en fous. Je peux travailler à 6 heures du mat, c'est ok, je fais mes trucs. Quand j'en ai marre, je vais faire une sieste. Quand j'ai une rue, okay. Je me lève.
Ouais, donc tu t'adaptes un peu.
Ouais, bah en fait, c'est. Franchement, ça n'a rien à voir avec Ramadan, mais juste, je trouve ça trop stylé de bosser le matin. Tu vois le soleil se lever et tout. J'ai de l'énergie de fou furieux, je travaille trop bien.
Et au moins, tu fais des trucs et l'après-midi, tu
ouais,
sens pas mal.
Ouais,
si
c'est
tu
ça,
rien, quoi,
clairement.
Donc,
ouais.
Bah, justement, on parlera un peu de ces adaptations scolaires et finalement professionnelles après la petite interlude musicale pour la musique de Ayman.
Super, nickel.
Il nous dira un petit fun fact après dessus. Ok.
Ok. Ouais, j'ai.
Je pense que t'as des trucs gros.
Ouais.
Allez, c'est parti. On vous la met de suite.
remarqué.
Et on est de retour donc à la radio pour cette fameuse émission. Ayman. Ayman. Donne-nous en fait la true story, la vraie histoire finalement qui se cache derrière cette musique que personne ne connaît.
En fait, avant d'être une musique publiée par Sales, etc., en fait, c'est une musique qu'on se passe dans ma famille de génération en génération depuis mon ancêtre qui est, figurez-vous, Louis XVI.
Non.
Ouais.
Sur la tête de ta mère.
En vrai, je vois une ressemblance, hein.
Ouais, on dirait pas, mais c'est Louis XVI. Et du coup, vas-y, c'est une histoire de fou furieux parce que, à l'ancienne, voilà, Louis XVI, il avait affamé le peuple, les gens, ils étaient vraiment pas contents, ils mangeaient des pierres tout le temps. Marie-Antoinette, elle mangeait des cupcakes, cupcake banane, cupcake poire, cupcake orange, je sais pas quoi.
C'est les cupcakes qui me...
Ouais. Et donc, les gens, ils se disent, ok, révolution, on en a marre, et ils foutent en zomperie à la Bastille. Et bref, du coup, Marie-Antoinette, elle y va, elle capte qu'ils vont guillotiner son mari, donc vas-y, elle monte les étages de la Bastille. À l'époque, c'était en colimaçon, donc elle monte les escaliers et tout, parce qu'en plus c'était une prison avant d'être un monument, tu vois. Enfin bref,
rappelons-le.
Et donc bref, on va très très vite. Louis XVI, il arrive à lui faire un enfant, et donc elle s'en va avec cet enfant à Ibiza. Entre temps, Louis XVI se fait guillotiner, les gens sont archi respectueux, vas-y, sa tête elle roule par terre, les gens ils sont là, ouais, mets trois trous dedans, fais un bowling. Vraiment, archi respectueux, mais bref, Marie-Antoinette n'était plus là, elle était à Ibiza avec son petit enfant qui s'appelle Petit Louis. Donc ils investissent, parce qu'ils ont là les sous, ils investissent dans le foncier, Erasmus, machin. Bref, ils se mettent bien là-bas, et donc Petit Louis qui grandit à Ibiza, qui finit par se marier avec une Espagnole, et qui, ensemble, ils ont un enfant qui s'appelle Roger Boutboul. Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que Roger Boutboul, c'est un génie. Vraiment, le mec est trop fort. Il est trop fort, il n'a aucun point faible. Il va à l'école, vraiment, il invente des mots à la dictée, tu lui dis un chiffre, il t'en dit un autre, tu lui dis 7, il dit 8. Vraiment, le mec est trop fort. Parce qu'à l'époque, en plus, ça comptait pas loin. Genre, vraiment, le mec, il sort vite. Vraiment, il est trop fort. Et bref, et un jour, il est en train de jouer dans la mer, et il est en train de jouer avec son cerf-volant, et là, il se prend un orage. Le mec, il se fait foudroyer et tout, et en fait, il voit qu'il va bien.
J'ai totalement perdu qui sont les protagonistes.
Il dit quoi ? Il se dit, waouh, si en fait, le ciel, il m'a mis un petit coup de jus, ben, en fait, on peut faire des trucs de fou. Donc, il revient, et cette fois, il vient avec une petite boîte avec lui, toujours son cerf-volant. Et pareil, voilà, il y a les nuages, ils sont en train de nettoyer au sourd. Ouais, qu'est-ce que t'as ? Tu cherches la mer, nanana. Vas-y, pfff. Il se reprend un éclair. Et en fait, cette fois, il le met dans la boîte. Et en fait, le mec, il a inventé l'électricité.
Okay.
Il se pointe à la mairie, il leur présente. Ils font, ouais, c'est quoi ça ? C'est de la peinture jaune ? Il leur fait, non, ça, c'est de la lumière. Et là, les mecs, ils sont là, waouh. Ils sont en train de péter leur crâne. C'est l'élu, c'est quoi ? Genre, ils sont vraiment en train de câbler. Ils disent, vas-y, il faut qu'on présente ça. Ils l'envoient aux States. Et donc, ils l'envoient dans le bateau. Il est en train de faire la traversée. Il met un peu d'électricité dans le bateau. Le bateau, comme un ouf. Ils font la traversée en 2 semaines, 4 jours au lieu de 3 semaines. Les gens, ils sont comme des oufs. Alors que, bon, ça allait pas vite. Ça allait, je sais pas, quand même, c'est bas de long, 2 semaines, 4 jours. Et en fait, sa daronne, elle dit, ouais, dis pas que tu t'appelles Roger Boutboul. C'est un peu la théon. Dis que... trouve un autre nom. Et donc le mec il dit, bon ok, il arrive aux States, il leur dit, bon, j'ai inventé l'électricité, je m'appelle Edison, Thomas Edison.
Okay.
Il arrive là-bas, il capte pas un beignet, il comprend pas l'anglais, c'est des Français qui habitent à Ibiza, qui se retrouvent aux States, vraiment ils captent rien, donc ils sont tous là, what, d'où les watts pour l'électricité. Bref. Il raconte ça et en fait le mec voilà, ils se mettent super bien aux States, ils ont une dynastie, voilà, ils ont leur fils qui est mon oncle, deuxième fils qui est mon père, donc ensuite ça fait moi, dynastie Louis XVI, moi en 5 minutes. Mais c'est une musique qui se passe de génération en génération depuis Louis XVI.
D'accord,
c'est ça qu'on a dit.
Et Thomas Edison, il avait la musique aussi, ok.
Ouais.
Incroyable l'histoire, putain.
Ouais, je l'ai pas du tout inventé, je l'ai complètement volé.
T'as une vie.
Au cas où, il y aurait des experts du copyright qui viendraient me tomber dessus, là.
Jonathan Cohen,
je t'adore. Je connais tes vidéos par cœur.
Désolé.
Toi et comment il s'appelle, Omar Da Fonseca, le commentateur de beIN Sport. Bref.
T'as une fanfac sur Marla Fonseca.
Non. On est dû parler de Ramadan, pas de Marla Fonseca. Celle-là, c'est pour après.
Okay. Donc il y aura une fanfac sur à la fond de... Non, comment il s'appelle ? Omar de la Fonseca à la fin de l'émission, les amis.
Non. J'ai juste une vidéo de lui que je connais par cœur.
On ira pas, en fait. C'est chiant, c'est lourd.
Ouais, on va arrêter, on va parler de...
De Ramadan.
Ouais. Non,
de Ramadan, c'est lourd. Je peux enlever, il y a le plexiglas. Bonjour.
Oh, t'es chaud.
Je suis beau, non, comme ça ?
Ouais. Pour ceux qui voient pas vraiment, on a affaire
décris-moi,
à...
Décris-moi, gros.
Bon, tu vois le David de Michel-Ange en maghrébin, quoi.
Demi-maghrébin.
C'est ouais, vrai. Pardon.
C'est vrai.
C'est pour ça, c'est tant l'autre, un quart italien, un quart argentin.
Sur Instagram, je suis italo-algérien.
Le mec est chaud.
Donc, revenons à nos moutons du Ramadan.
Moutons. Longue interlude.
La transition.
Là, il a
mais vraiment, moi je voulais pas le faire, on m'a lancé dessus. Après,
je sais pas, quand on a mis la musique à 30, c'est les 40.
Mais oui, mais moi je vous ai dit que c'était une histoire qui était bad longue.
J'espère que les gens dans la voiture ils écoutent ça. Tu sais, il a fait tout le truc où tu sais, tu captes graphite jusqu'à la fin, tu graphite avec son anecdote.
Mais j'espère que les gens ils ont. Tu vois, ça les a occupés un peu, mais vas-y, ils sortent pas plus cultivés. Ça me fait de la peine pour eux.
Bah, c'était une petite dédicace à Jonathan Cohen.
Ouais, je l'adore vraiment trop.
On l'aime.
Tout ce qu'il fait, c'est de l'or.
J'ai pas trop aimé, comment ça s'appelle, la flamme. Moi, j'ai pas kiffé de ouf.
Mais juste, tu veux parler de ça, le Ramadan, wesh.
Vraiment. Je m'en fous. Jonathan Cohen. Viens, on fait une émission sur Jonathan Cohen après.
Vraiment. Et je viens et je récite ces trucs par cœur, mais je l'adore. Vraiment, je kiffe trop Jonathan Cohen.
On sera invité.
Rendez-vous dans un mois, on lui envoie un DM, on espère qu'il viendra, les gars, on vous promet rien.
Qui ça, moi ou Jonathan Cohen?
Je sais pas.
Je comprends plus.
Vraiment.
Je comprends plus. Bon, revenons, putain, au Ramadan, mince. Aïman,
oui.
Tu nous embêtes. Mouton ? Non, on n'a envie pas. Allez, l'Aïd.
Non, il n'y a pas de mouton, justement.
Pas de transition, l'Aïd.
Non, cet Aïd-là, non.
Il n'y a pas de mouton.
Il n'y a pas de mouton ? Ok. Bah, bon. Expliquez-nous l'Aïd, alors.
Il y a deux l'Aïd, ouais. Le petit,
transition.
En gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Aïd, c'est un mot arabe qui veut dire fête.
Ok.
Donc, clairement, ça définit juste les. Bon. C'est pour ça qu'on a deux Aïd, parce qu'on a deux fêtes. C'est aussi simple que ça. Tu as le premier qui est la fête du. Je sais pas comment je traduirais littéralement, j'aurais dit la fête du déjeuner, genre l'inverse de jeûner.
Ok.
Ouais. Et puis t'aurais la fête du sacrifice.
D'où le mot déjeuner, inventé par Louis XVI.
Ouais. Et puis t'aurais la fête du sacrifice, celle que tout le monde connaît avec les moutons, tout ça.
Ok.
Mais vu que là c'est Ramadan, on jeûne, bah après on va déjeuner.
D'accord. Donc entre le petit et le grand laïd, tu jeûnes quand même, tu fais des trucs comme ça.
Comment ça ?
Est-ce que tu continues à jeûner ?
Non.
Non.
Enfin, pas, en fait, je pourrais. Je pourrais si jamais j'avais envie, si jamais j'étais peut-être. Enfin, je vais me juger moi, mais si j'étais beaucoup plus pieux que je le suis maintenant, je pourrais, mais je le fais pas.
Mais alors.
Non, mais c'est deux fêtes totalement différentes.
Okay.
Celle du déjeuner, ça marque la fin du Ramadan.
Ouais. Okay.
Et l'autre Aïd,
c'est genre deux mois après, je crois.
Voilà,
un peu du genre.
Ah ouais, ouais,
c'est
ouais,
totalement différent, tu vois.
C'est vraiment loin, c'est écarté.
C'est comme Noël, Nouvel An, tu vois.
Ouais, c'est des fêtes. Non, pas. Là, non, parce que Noël, Nouvel An, il y a 7 jours.
C'est le pire exemple.
Non,
Noël
Pâques,
tu vois.
Ouais. C'est genre, c'est archi espacé, ça n'a rien à voir.
Imagine, on a cité à ce truc. Oui, c'est de merde là.
Mais du coup, le deuxième Aïd, je sais pas, c'est lequel est le grand, lequel est le petit.
C'est celui du sacrifice qui est grand.
Ok, du coup, le grand Aïd, genre, c'est quoi la signification derrière, c'est quoi
Mais du coup, ça n'a rien à voir avec Ramadan.
Ouais, okay. Mais je sais pas,
ça peut intéresser les gens.
Tu veux peut-être.
Oh, bah, je pense que tu connais plus que moi.
Je sais pas. En vrai, c'est. Enfin, en gros, c'est une commémoration. Parce que, voilà, parmi les prophètes de l'islam, l'un des premiers, il y avait Abraham, qui est commun aux trois grandes religions islam, christianisme et judaïsme. Et en gros, bon, c'est un des prophètes. Et donc, il a reçu l'ordre de sacrifier son fils. Je sais plus exactement pour quelle raison. Et en fait.
C'est pas une histoire qui est un peu. Qui est commune aussi aux trois grandes religions.
Je sais pas si l'histoire est commune.
J'ai l'histoire de.
C'est possible, okay. C'est possible, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises.
Okay.
Je sais en tout cas.
Dire,
okay, qu'on l'a dans l'islam.
Ok, vas-y, je sais plus, j'ai pas
mais en tout cas, voilà, il devait sacrifier son fils. Il a eu la foi de se lancer dedans. Son fils a dit ok. Et en fait, finalement, comment dire. Il a l'occasion de substituer son fils, enfin de la part de Dieu qui dit voilà, en gros c'était un test et au moment, en gros il a réussi, on substitue son fils par un mouton Et donc Abraham finit par sacrifier le mouton et en commémoration pour cet événement, tous les ans, on a cette fête où on sacrifie un mouton, où on fait plein de choses.
Mais c'est comme t'as dit, ouais, c'était pour tester son fils.
Ouais, c'est ça, ouais. Je pense. C'est, enfin, plus pour tester lui. Enfin,
c'est après, pour tester sa foi, il me
ouais,
semble.
C'est ça, ça, tester sa foi. Okay. Et du coup, voilà, en gros, c'est Abraham, c'est un prophète qui est vachement important dans l'islam, et donc il y a plein d'événements qui sont reliés à lui. Enfin, même cette fête-là, il se passe beaucoup de choses. En Arabie Saoudite, à la Mecque, c'est à ce moment-là qu'il y a le pèlerinage, quand on parle de pèlerinage à la Mecque, le vrai, qui est imposé dans les cinq piliers. C'est à ce moment-là, il y a plein de choses que les gens font quand ils vont là-bas qui sont reliées à l'histoire d'Abraham, parce que c'est un prophète qui est vachement important. Il a fait plein
d'accord,
de choses.
Et justement, ok. Ouais, parce que moi je croyais totalement que justement le laïd du sacrifice c'était celui de la fin du jeûne. Mm. Et c'est vraiment parce que vraiment cette fête donc reliée au sacrifice, et quand t'es. Je trouve, tu vois, par exemple, moi je suis vraiment francisé à mort, tu vois. Mm-hmm. Quand t'écoutes en plus tes potes blancs en parler et tes potes souvent limite blancs en parler, c'est vraiment le truc, ça fait barbare et tout. Genre, t'as vraiment un délire autour de ça et t'as pas du tout de.
Après, que ce. Enfin, le mouton qui vient du supermarché,
ouais,
enfin,
oui,
tu vois,
il y a vraiment chose. Ouais, non, mais c'est
qu'il n'a pas. Ouais,
t'as un truc.
C'est ça, il n'est pas venu, il n'a pas pris son foie comme ça, il l'a posé dans ton assiette, le mouton, s'est fait. Bon, c'est un peu cynique de dire comme ça, mais bon, c'est.
Non, ouais, carrément.
Voilà, c'est une façon comme une autre, et en gros, il y a un rituel quand même. Pour sacrifier le mouton, enfin ce jour-là, mais tous les jours de l'année, qui est le rite de sacrifice halal, qui fait qu'une viande est halal, et qui est censé, voilà, si jamais on y croit, ne pas faire souffrir l'animal. Voilà, tu fais ça avec un couteau qui est super aiguisé, tu vises, je sais pas quoi, moi je m'y connais pas en artère, veine, etc. Mais voilà, il y a un truc très spécifique que tu connais quand t'es bouché, que tu vises, de sorte à, si tu le fais bien, ne pas faire souffrir l'animal.
Okay.
Vous mangez halal, vous, au quotidien?
Pas ouais. Tout le temps.
Ouais, après, ouais, de temps en temps, un petit McDo, mais tu vois, c'est le genre de choses où je fais de mon mieux, quoi.
Mais tu sais, une news qui va peut-être faire peur plein de monde qui sont un peu contre l'islam, c'est que la plupart de la viande qu'on mange finalement est halal, finalement, tu vois. Parce que c'est une pratique qui est beaucoup plus agréable pour l'animal, beaucoup mieux pour la viande, parce que quand tu égorges un mouton, t'as moins de sang dans la viande que tu vas consommer aussi.
Ouais, je pense qu'il y a un délire, tu le saignes un peu, enfin bon.
C'est ça.
Quand t'es au bled, tu vois bien.
Des souvenirs.
Ouais. Enfin, quand tu vois, tu saignes à fond l'animal, tu le vides bien.
Ouais, c'est ça.
Ok.
C'est ça.
Et donc par rapport au petit laïd, revenons à nous au ramadan. Donc du coup celui-là se passe comment? Du coup c'est un peu quoi le déroulé de la fête, puisque finalement on n'y connaît rien.
Moi on a un truc particulier en Tunisie, c'est qu'on mange un plat particulier qui s'appelle la charmoula. Je sais pas si tu connais, c'est un sorte de confit de raisin sec et d'oignon. Mais bon. Ah. Et on mange aussi de la morue très salée. Alors on me dit qu'on mange ça pour nous donner soif, pour qu'on rattrape un peu tout ce qu'on a perdu en eau.
Genre tu peux boire en eau de un mois d'eau.
c'est ça. Bah, comme le poisson est très salé, tu vois, ça donne très soif.
Okay. Ah ouais, ça c'est très très salé.
Et aussi les trois jours, on va dire, l'Aïd et les trois jours après, enfin moi je me souviens que on allait voir les autres familles, les amis un peu partout dans la ville, enfin quand j'étais en Tunisie, et quand on était petit, on recevait des cadeaux, de l'argent et tout. Donc, c'est un souvenir plutôt agréable.
C'est
Est-ce que c'est un. Y a, genre, je sais pas du tout comment ça se passe, je suis désolé les gars pour mon agriculture, mais c'est un peu un Noël de la religion musulmane ou pas du tout?
Non, non. Enfin, il n'y a pas de. Vraiment. Enfin, tu vois, tu fais des cadeaux si tu veux, mais nous, dans notre famille, on en fait pas.
Non, c'était.
Je pense que c'est pas.
C'est des petits cadeaux, tu vois, c'est pas grand chose. C'est genre, je recevais 2 dinars, tu vois, de ma tante, je recevais 3 dinars.
Après, je pense aussi que c'est un délire en mode, si jamais tu as de la famille, tu les vois pas depuis longtemps, ils ont envie de te faire plaisir, ils vont en profiter parce que c'est le moment, souvent, où tu vois la famille.
Ouais, c'est une fête familiale.
C'est le moment où même ta famille elle est éclatée aux quatre coins du pays, vous faites l'effort de vous rejoindre. Enfin, après, ça dépend des familles. En tout cas, dans la mienne, j'avais la chance que mes oncles et mes tantes faisaient l'effort et on se réunissait. Et donc, c'est pour ça aussi, des fois, peut-être c'est stylé de.
Ouais. C'est ça. Mais vous vous réunissez ou vous faites pas le tour de tout?
En fait, on habite pas. Enfin, nous, on habite dans la capitale économique, et en fait mes grands-parents et ses autres filles, sauf ma mère, habitent dans une autre ville, et donc on y va, on fait tout chez mon grand-père.
Okay.
Mais nous on fait pas de cadeaux, on mange rien de particulier, juste on se capte, quoi.
Ok. Mais non, parce que nous, par exemple, parce que je vis chez ma tante en Tunisie, et j'ai ma tante et, qui reste à la maison, et tous les enfants et les oncles et les hommes font le tour des autres maisons. Donc en général, en fait, les femmes, un peu bizarre, mais les femmes restent à la maison pour accueillir les gens qui viennent. Et nous, on va dans les autres maisons pour... Et du coup, il y a plein de pâtisseries et tout pour bien accueillir les gens. Et...
Okay.
Donc c'est un peu pour oui, se retrouver. Vraiment, c'est cette, retrouver sa famille. C'est ça qui est très important, tu vois. Et faire plaisir aux enfants. Il y a vraiment cet axe enfant, genre leur donner un petit... Enfin, les gâter, tu vois, un peu. Mm-hmm. Genre leur... Je sais que ma tante, elle achète des nouvelles tenues pour mes cousins, tu vois, genre pour cette sortie-là, tu vois, la sortie
de
la
vie. Il faut que ce soit festif.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est peut-être un côté plus culturel. C'est pas forcément religieux, c'est pas forcément obligé.
Ah, oui, non,
du coup, c'est ça, c'est que chacun fait ça à sa sauce.
Ouais.
L'important, c'est de se capter en famille. Et puis après, voilà, tu t'essaies de te faire plaisir. De,
Ça dépend des familles.
Il y a des gens, ils achètent des vêtements exprès, ils se mettent bien sur leur 31. Okay. Voilà, un peu de parfum, un peu de trucs pour vraiment se mettre au top. C'est très sympa, franchement. C'est un moment que moi je kiffais beaucoup quand j'étais petit, parce que voilà, pareil, c'est des gens que tu vois pas forcément tout le temps. Tu habites dans une autre ville, tu les vois pas tous les jours, donc c'est stylé. Tu y vas, et puis même c'est l'occasion de voir les petites cousines qui ont grandi. Elles avaient 4 ans, maintenant elles ont 5, elles ont grandi de 10 mètres de haut. Donc, non, clairement, c'est très stylé. Moi j'aimais beaucoup.
D'accord.
Et vous organisez rien, je veux dire, entre. Musulmans de l'UTC / Compiègne, genre est-ce que je sais pas, vous réussissez parfois.
Je sais que avant Covid, il y avait au Clos des Roses, il y avait tous les soirs, il me semble, qu'ils sortaient des tables et ils coupaient le jeûne là-bas entre eux, chacun ramenait des plats et tout ça. Bon, maintenant on peut plus, je sais pas s'il y a encore des trucs qui se font. Je sais que la mosquée, je pense qu'elle fait sûrement des récoltes et des collectes pour les étudiants qui sont dans le besoin.
Ouais, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais.
Mais c'est compliqué, tu vois, avec le Covid. Mais à l'époque, au Clos des Roses, tout le monde se regroupait, des tables dehors.
UTC incompris aussi, ou c'était juste...
Les musulmans de Compiègne, donc okay, tout le monde était invité. Hein, il me semble même des non-musulmans. Hein,
okay.
Donc tout le monde se regroupait.
De toute façon, qui va vérifier, il n'y a pas de carte d'adhésion. C'est l'islam.
De toute façon, tout le monde est invité. Ils se regroupaient. Après, il n'y a pas... Entre les UTC, je pense que ça dépend de ton groupe de potes, en fait. Je sais que j'ai des amis qui se regroupent entre eux parce qu'ils viennent du Maroc ou je ne sais pas, tu vois. Mais il n'y a pas de choses en particulier.
Ayman, tu fais un peu avec Reda, du coup ? Enfin, bon, Reda, on en parlait comme si tout le monde le connaissait. Non, c'est un mec qui est aussi à l'UTC et un ami à toi, donc du coup, qui est aussi musulman.
Ouais.
Et donc du coup, est-ce qu'il y a un process à deux pour essayer de se soutenir déjà dans le jeûne, et puis il y a le côté festif de l'Aïd et retrouver avec lui ou pas du tout ? Enfin, lui ou un autre.
En gros, on pourrait faire des choses. Après, nous, dans le quotidien, on s'est pas tout le temps capté, on essaye de temps en temps, on se fait une petite bouffe. Enfin, après, tu vois, on aurait pu le faire hors Ramadan. Okay. Et puis là, on s'est chauffé un peu, on s'est dit qu'on essaye de se renseigner un peu, d'en apprendre un peu plus sur notre religion. Et du coup, on fait ça un peu à deux. Et comme ça, c'est stylé, on peut discuter, on peut se poser des questions mutuellement et lancer la réflexion un peu plus loin. Parce que ce que je m'étais dit cette année, c'est que. Bref, dans l'ensemble, je trouve ça stylé de... À partir du moment où tu suis la religion, vas-y, t'en apprends un maximum possible, t'essaies de comprendre ce que tu fais. Et puis ça, c'est un truc qui m'attriste un peu des fois, genre dans la façon dont je fais les choses, dans la façon dont de façon assez répandue, on peut le trouver. Après, je sais pas ce qui se cache dans le cœur des gens, mais des fois tu fais des choses parce que c'est t'as toujours fait comme ça, etc.
Parce que c'est culturel.
Ça, des fois tu te poses pas forcément la question, et en fait moi je trouve ça stylé des fois. Vas-y, je me dis c'est le moment, enfin parmi les choses que je disais au début, faire l'effort, ça fait partie des choses. Je me suis dit vas-y, ce mois je fais l'effort et j'y vais, je passe, vas-y, un petit quart d'heure, un petit 30 minutes par jour, je regarde des vidéos, des machins, j'essaie de trouver des sources d'informations stylées. Et j'essaie d'en apprendre plus, de me cultiver, quoi, de me documenter, et comme ça, après...
Parce que c'est vraiment... dans votre culture, quand on vous parle du Ramadan, c'est juste un truc qu'il faut faire comme ça, et finalement, on vous explique pas trop, de base, quand vous êtes enfant ?
Je pense que ça dépend beaucoup de choses, ça dépend des familles, de plein de trucs, mais en fait...
Votre expérience personnelle, tu vois, plutôt. Comment ça s'est passé, vous ?
Mais comme il dit, ça dépend. Hein. C'est, c'est vrai que j'ai... je suis pas... Le fait aussi que je vive en France, je suis pas autant dans la religion que je l'aurais été si j'avais été en Tunisie, tu vois.
Okay.
Donc je pense que j'aurais un peu plus, j'aurais su lire l'arabe, donc j'aurais peut-être commencé à lire le Coran si j'étais en Tunisie. Donc ça dépend vraiment. Donc comme t'as dit, là maintenant que je deviens plus mature psychologiquement, j'ai envie d'en apprendre plus, tu vois, parce que je me pose des questions. Mm-hmm. Quoi. Donc c'est pareil, ouais. Ça dépend des familles.
Ok.
Mais
sympa.
Je pense qu'il y a plein de monde qui sont musulmans, mais qui ne savent pas vraiment le réel, ce qui se cache vraiment derrière le ramadan. Pourquoi on le fait
Mais enfin, pour vous, du coup, pourquoi vous le faites? Genre, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le ramadan? Genre là, actuellement, après toute cette évolution et tout, pour vous, c'est quoi?
Bah, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà culturellement, parce que genre, c'est quelque chose que j'ai toujours fait avec ma famille, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ma culture. Parce que ma religion, parce que je suis musulmane et que c'est un des cinq piliers de l'islam. Parce que c'est une manière de ressentir un peu ce que les gens dans le besoin ressentent, les gens qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas l'argent. Tu ressens vraiment ce qu'ils ressentent. Parce que tu te recentres un peu sur toi, parce qu'en fait, comme tu n'as pas de force, tu te concentres, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tu es un peu plus concentré, donc tu te concentres un peu plus sur les choses. Et
parce qu'en plus, tu n'as pas quelque chose, quand tu rates des jours de jeûne, tu peux soit les rattraper, soit distribuer faire des bonnes actions, des choses
en comme fait, ça. Techniquement, tu n'es pas censé... Si tu peux le faire, tu n'es pas censé le rater, quoi.
Ok.
Ouais.
Genre, en fait, du moment que tu n'as pas d'excuses, tu le fais. Après, bon, clairement, tu fais ce que tu veux, et puis... Au final, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais juste en mode, si jamais tu as envie de suivre les règles, entre guillemets, tu fais tous les jours, sans exception, tu peux les rater seulement si tu as une excuse parmi celles. Voilà, tu es malade, tu es ici, tu es en voyage, ton voyage est difficile, tu as tes règles, peu importe. Mais sinon, tu es censé les faire. Et c'est en fait, en mode, si jamais tu ne peux pas, parce que tu as une excuse, à ce moment-là, tu peux rattraper, tu peux... Enfin, peut-être tu peux nourrir, il y a un délire comme ça. Bon, on ne va pas entrer dans les règles en détail.
Okay,
mais du coup, de base, tu es censé tout faire. C'est pas à la carte, quoi.
Et même si tu ne le fais pas, il me semble que tu es quand même obligé de les rattraper. Tu ne peux pas donner de l'argent pour... Enfin, donner des donations pour ne pas rattraper tes jours. Il me semble que tu es quand même obligé de les rattraper.
Ok. Je sais pas du tout ça.
Mais le truc des dons, c'est vraiment quelque chose de très répandu pendant le ramadan. Parce qu'on fait ça aussi pour ressentir ce que les gens dans le besoin... ressentent. Donc aussi, il y a eu cette en Tunisie, il y a beaucoup de, enfin toutes les familles font des dons à la mosquée qui va elle nourrir des gens qui sont dans le besoin.
Même quand tu jeûnes, en vrai, tu le fais. Enfin, tu vois clairement, ça fait partie des bonnes actions que tu fais. Voilà, t'as les moyens, tu prépares un petit panier, tu mets de la farine, des œufs, des trucs de première nécessité et tu vois si tu connais des gens dans ton quartier, peu importe.
Ouais. Nous, on donne à la mosquée du coin parce qu'il y a des mosquées partout et la mosquée redistribue en fait. N'importe qui peut aller à la mosquée le soir pour couper le jeûne.
Et vous faites ça à Compiègne aussi? Il y a ça à Compiègne dans la communauté?
Déjà, la mosquée elle est fermée la plupart des lieux de culte.
Ah, je savais pas.
Les lieux de culte qui sont fermés depuis le confinement.
Okay, même pendant le ramadan, il n'y a pas eu d'adaptation de.
On est toujours confiné, on a toujours 30 000 cas donc c'est chaud.
Ok. J'entends bien, monsieur.
Ouais.
Mais il me semble que quand même, il y a pas ce, enfin, il y a des dons. La mosquée, je pense qu'elle relaie beaucoup de noms d'associations ou de dons qu'on peut faire. Mais il y a pas cette, je pense pas qu'il y a cette notion de n'importe qui peut aller à la mosquée pour, enfin, hors Covid quoi, pour couper le jeûne. Je sais pas en vrai.
Je sais pas. Franchement, je pense que oui. J'y ai déjà été et tout. Enfin, après, tu vois, c'est pas non plus. Des plats de fou, mais je pense qu'au moins on te fournit, déjà il y a des, enfin il y a des fontaines à eau, puis on te distribue des dates, des trucs pour les gens qui, ne serait-ce que pour couper
pour aller faire ta prière à la mosquée, quand tu,
je pense que si tu vas à l'heure et tout, on te file de quoi, de quoi bouffer.
Ouais, parce que pendant le ramadan, en tout cas dans ma famille, ils vont beaucoup plus à la mosquée pour prier, parce que tu peux prier chez toi, mais tu peux prier aussi à la mosquée, c'est mieux de prier à la mosquée. Donc je sais que directement après avoir coupé le jeûne, j'ai mes oncles qui vont à la mosquée et ils font la prière de, ça s'appelle Talaweh, je crois.
C'est de l'extra le soir.
Ah d'accord, ok. Ouais. Okay. Mais il y a des gens aussi qui genre juste mangent une date, boivent un coup d'eau et partent à la mosquée prier.
D'accord.
Bon. Directement après, quoi.
Bah écoutez, il est 14h, donc l'émission touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu, c'était un échange très intéressant.
Merci à vous.
C'était très bien.
C'était très intéressant.
Première, Paula, comment c'était?
C'était cool.
Pas
stressant, ça va.
On aurait pu en dire tellement plus, on n'avait pas raconté Louis XVI. Vraiment.
Je ne regrette absolument pas ce moment.
Je m'en fiche.
Au moins, on a gagné une heure d'émission sur Jonathan Cohen.
Ce sera un ravitaillement, promis. Donc écoutez, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie à tout le monde d'être venu aujourd'hui.
Merci à tout le monde.
Très sympa. Ça fait du bien aussi en temps de Covid de parler un peu.
Ouais, c'est sympa.
C'est clair.
Bon, merci à tous, au revoir.